La mauvaise fille, de Dandy Smith. Traduit de l'anglais par Raphaël Pache. Lu par Céline Espérin et Juliette Lambolet. Suis-je sérieusement en train de penser que la femme qui dort dans la maison de mes parents n'est pas la vraie Olivia? L'idée est absurde et je la rejette presque aussitôt, mais elle revient sans cesse. Et je me retrouve à jouer une version du jeu de la taupe pendant que je me douche et que je m'habille. Finalement, je m'assieds sur mon lit et je prends une minute pour passer en revue toutes les preuves qui m'amènent à penser que cette femme n'est pas ma sœur. Mes réflexions sont un enchevêtrement de colliers entassés au fond d'un sac. Je sors donc mon téléphone et je tape une liste pour essayer de démêler les chevaux. Je baisse la luminosité de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque gris, parce que j'ai mal à la tête. Je commence à écrire. 1. Elle ne se souvenait pas du journal à l'abeille dorée, ni du garçon du bus. Premier signal d'alarme. Je me rappelle la nuit où elle a été kidnappée, comme s'il s'agissait de la scène d'un film dont je peux arrêter le déroulé pour le rembobiner. C'est sûrement la même chose pour elle, non? Lorsqu'elle a nié avoir connu le garçon du bus et l'existence du journal intime qu'il lui avait donné, je me suis demandé si elle n'essayait pas de le protéger. Il était peut-être son petit ami et ils avaient organisé son enlèvement pour pouvoir s'enfuir ensemble. Peut-être que dans les années qui ont suivi, cette relation a tourné au vinaigre et qu'elle est revenue. Mais maintenant, je me demande si la raison de son amnésie n'est pas plus simple. Elle n'a jamais vécu cet épisode. Après tout, le public n'a pas été mis au courant de l'existence du journal. C'est un détail qui n'est connu que d'une poignée de personnes. 2. Son allure lorsqu'elle est arrivée à la maison. Ses cheveux avaient été coupés peu de temps avant. Elle avait moins de points de fourchu que moi. Même son bronzage était plus doré que le mien. Et puis, il y avait ses ongles, courts et soignés, avec des restes de vernis rose. Ce n'est peut-être pas une preuve de quoi que ce soit, mais j'aurais imaginé une victime d'enlèvement plus débraillée ou négligée. Olivia avait l'air de sortir tout droit d'un salon d'esthétique. 3. Elle n'évoque jamais des souvenirs de notre enfance. Elle me répète continuellement que je lui ai manqué, mais nous ne parlons jamais de nos vies d'avant son kidnapping. Elle parcourt ses vieux agendas et les miens comme s'il s'agissait de romans. Peut-être que c'est exactement ce qu'ils sont pour elle. L'histoire de la vie de quelqu'un d'autre. Et elle les dévore, telles des truffes au champagne. Parce que toute information est utile. Surtout quand on joue un personnage. 4. Elle ne se souvient pas de Hathaway Cottage, ni de notre cousin Edward. C'est la preuve la plus convaincante que je possède. Impossible qu'Olivia ait oublié. Il y a de fortes chances que ma sœur ait parlé du cottage et de nos cousins dans ses agendas. Mais si cette femme n'est pas Olivia, elle a au moins 5 années d'une vie étrangère à assimiler, à se rappeler et à réciter. Ce qui implique probablement des lacunes dans ses connaissances. Des lacunes concernant par exemple les maisons de vacances ou les cousins. Cela dit, est-ce suffisant pour prouver qu'elle n'est pas ma sœur? Suis-je seulement certaine que c'est le cas? Ai-je perdu la tête à l'envisager comme une impostrice? Et si tel est bien le cas, pourquoi suis-je la seule à m'en être rendue compte? La police a sûrement procédé à un test ADN pour vérifier ses dires. Mais dans le cas contraire, et qu'elle ment sur son identité, pourquoi? Que veut-elle? Elle a laissé entendre qu'elle avait été mariée, je crois que c'est vrai. Elle était mortifiée le jour où elle me l'a avoué. Et personne ne pourrait jouer le regret cuisant de manière aussi convaincante. Donc, si cette femme n'est pas Olivia, peut-être fuit-elle un mari violent? Peut-être est-ce cet homme que j'ai vu masqué? Mais pourquoi dans ce cas se réfugier dans une famille qu'elle ne connaît pas? Peut-être que l'homme qu'elle fuit est si affreux que prendre l'identité d'autrui était le seul moyen pour elle de s'échapper? Je me passe les mains sur le visage, plus perdue que jamais. On m'a déjà accusée de chercher à attirer l'attention et d'être pénible. Je ne peux pas faire part de mes soupçons à qui que ce soit tant que je n'ai pas de preuves solides. Si tant est qu'il y en ait. Le fait est que c'est exactement avec ces traits que j'aurais imaginé Olivia à 29 ans. Elle me donne l'impression d'être une sœur. Ça doit compter pour quelque chose, non? Ou peut-être que j'ai été si seule, si gouvernée par ma culpabilité et si désespérée de la retrouver, que je me suis convaincue qu'elle était Olivia. parce que c'était plus facile que d'accepter sa disparition définitive. Je sauvegarde les notes sur mon téléphone, l'esprit encore en train de passer tout cela au crible, à la recherche de la vérité, comme d'autres cherchent de l'or. Lorsque j'entre dans le cabinet de Gideon, je suis sereine. Je m'assieds sur son coûteux canapé de place, tandis qu'il s'installe dans le fauteuil à haut dossier, en face de moi. S'il n'avait pas de cahier entre les mains, on ne se douterait pas qu'il s'agit d'une séance de thérapie. J'avais raison à propos des meubles sombres, puisque j'ai maintenant sous les yeux un bureau en acajou, des étagères en acajou et une armoire en acajou dans un coin. La pièce est confortable, meublée de canapés en peluche, d'un grand tapis moelleux et de bibliothèques du sol au plafond. Derrière son bureau, une galerie murale expose ses nombreuses récompenses et qualifications.